Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. Environ 3 millions de kilomètres carrés, c'est la surface du bassin drainé par le Nil. Ce fleuve, le plus long d'Afrique, fait plus de 6700 kilomètres de long, dont 1200 en Égypte. Spectaculaire par sa longueur, le Nil l'a longtemps été par ses crues, désormais régulé par de grands aménagements. À fleuve exceptionnel, barrage exceptionnel. Celui d'Assouan est l'un des plus grands du monde. De tout temps, ce fleuve a joué un rôle crucial en Égypte. La fertile vallée du Nil a vu éclore une agriculture florissante. Elle a également nourri nombre de croyances et de coutumes religieuses. Dans l'Antiquité, les Égyptiens honoraient le dieu Api, qui symbolisait les crues du fleuve. Des offrandes permettaient de s'attirer les bonnes grâces de ce dieu, auquel les Égyptiens attribuaient la force vitale du Nil, et par extension, la prospérité et la fécondité. De par son importance, le fleuve a largement contribué à la formation de l'Égypte actuelle. Ainsi, les grandes villes sont au bord du Nil. Aujourd'hui, l'Égypte compte 75 millions d'habitants. Une population qui croît rapidement puisqu'elle a doublé depuis le début des années 70. Une telle croissance démographique ne pouvait manquer d'affecter le fleuve ressource de l'Égypte. Pour détailler les enjeux des ressources en eau en Égypte aujourd'hui, nous accueillons Guylain de Marcilly, membre de l'Académie des sciences, et Thierry Ruff, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Guylain de Marcilly, Thierry Ruff, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est avec grand plaisir.
Bonjour, on va travailler le mieux possible.
J'aimerais commencer par une première question très générale. On a donné quelques mots en introduction sur les grandes caractéristiques du Nil. Est-ce qu'on peut détailler un peu cette carte d'identité du Nil ?
Oui, alors en fait, il y a deux Nils. Il y a le Nil blanc et le Nil bleu. Le Nil bleu vient d'Éthiopie et fournit à peu près 85% des ressources en eau de l'Égypte. Et le Nil blanc, qui vient du Soudan, perd beaucoup de ses eaux dans une partie marécageuse dans laquelle le Nil s'évapore. Donc l'essentiel des eaux consommées par l'Égypte provient de la partie éthiopienne de ce fleuve. Alors, le Nil est effectivement un fleuve énorme, il débite en moyenne 2800 mètres cubes seconde. C'est à peu près le débit de crue du Rhin. À Paris, nous avons une Seine qui débite en moyenne 200 mètres cubes seconde. On en est presque 15 fois le débit de la Seine. Vous voyez que c'est un très grand fleuve. Alors, les étiages sont déjà énormes, 500 mètres cubes seconde, et les crues peuvent aller jusqu'à 8500 mètres cubes seconde. C'est évidemment, à l'échelle mondiale, quand même un petit fleuve. L'Amazone, c'est 185 000 mètres cubes seconde. Donc, c'est quand même d'un ordre de grandeur tout à fait supérieur. Mais pour l'Afrique, comme vous l'avez dit, c'est un très grand fleuve. Alors, ce fleuve traverse 10 pays. Et évidemment, l'Égypte, qui se trouve le plus à l'aval, est celui qui bénéficie ou utilise la majorité des ressources en eau du Nil. Thierry Ruff va nous expliquer comment, grâce en particulier à l'aménagement d'Assouan, mais aussi, et vous l'avez dit, depuis de façon tout à fait traditionnelle, depuis au moins le 6e millénaire avant Jésus-Christ, l'agriculture égyptienne était basée sur les crues du Nil, vous l'avez rappelé, mais aussi des aménagements qui ont commencé au 4e millénaire. C'était aménagé de façon très importante et la culture de l'eau en Égypte est totalement considérable. Alors, en dehors du Nil, il n'y a pas grand-chose. Il pleut très peu, c'est un pays extrêmement aride, de l'ordre de 20 mm sur les parties les plus avales, 180 mm à Alexandrie. C'est rien du tout, tout ça s'évapore, ça ne contribue pas à la ressource en eau. Il y a quand même, dans la partie ouest de l'Égypte, ce qu'on appelle le désert libyque, des grandes nappes d'eau souterraines que l'on qualifie de fossiles. C'est peut-être pas le bon terme, mais enfin, ce sont des eaux qui se sont infiltrées dans ces nappes il y a environ une dizaine de milliers d'années, quand l'Afrique était plus humide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, ces nappes sont un petit peu exploitées en Égypte, mais elles le sont beaucoup plus en Libye. Il y a donc une petite possibilité, mais ça restera marginal par rapport au Nil, d'utilisation d'eau souterraine dans ces nappes, dans la partie désertique, libyque de l'Égypte, mais ça ne représentera jamais qu'un tout petit complément à l'énorme apport d'eau que représente le Nil.
Pourquoi est-ce qu'elles sont plus exploitées en Libye ? Est-ce que c'est parce que les ressources sont plus importantes ?
Non, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas le Nil en Libye, donc c'est les nappes ou c'est rien du tout. Il n'y a absolument pas de fleuve en Libye. Il pleut presque aussi peu qu'en Égypte. Il y a un petit peu d'humidité et de précipitation sur la bordure méditerranéenne, mais tout le sud de la Libye est absolument aride.
Peut-être je vais souligner cette fantastique évolution effectivement de l'agriculture égyptienne avec le barrage d'Assouan dont vous avez parlé et qui vient terminer une grande période historique de remaniement de la gestion des eaux Pendant 6000 ans pratiquement, les populations égyptiennes riveraines du fleuve ont vécu l'alternance de la crue et de la décrue, avec des aléas très importants. Le seul phénomène régulier, c'était l'existence même de la crue qui commençait le 15 juillet et finissait le 15 octobre. Mais il y avait des crues trop puissantes et dévastatrices. Il y avait aussi des périodes de disette et de vaches maigres. Et tout l'art du gouvernement de l'Égypte et de l'effort des fellahs égyptiens pendant ces millénaires a été à la fois de produire après la crue et d'emmagasiner suffisamment de céréales et du blé pour éviter les disettes et donc avoir des réserves sur plusieurs années. Ce qui a d'ailleurs généré l'existence même d'un État et d'une administration pour pouvoir assurer à la fois l'entretien du dispositif hydraulique mais aussi la gestion des bases alimentaires fondamentales.
Alors justement, vous parlez de disette, de période de famine. Nous, on a plutôt l'image d'une agriculture très florissante, et cela depuis des millénaires. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que malgré tout, on peut considérer que l'agriculture en Égypte profitait de conditions exceptionnelles ?
Il y a un certain mythe sur la fertilité légendaire de l'Égypte. Le système de crue et de décrue, bien organisé il y a 2000 ans, fournissait au regard des Méditerranéens du Nord quelque chose d'extraordinaire, puisque des agriculteurs, pratiquement, en faisant un travail très limité, récupéraient les gains de ce travail de culture de décrue avec les meilleures productions céréalières de la Méditerranée. Les rendements étaient autour de 1 tonne à 2 tonnes par hectare, alors que dans le reste de la Méditerranée, la céréaliculture fournissait que 400-500 kilos. Donc c'était 3-4 fois plus productif sur le Nil. Cela dit, aujourd'hui, il y a une population de 75 millions d'habitants qui vit sur l'équivalent de 3 départements français. La densité réelle sur le territoire bâti et occupé est de l'ordre de 2000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire autant que le delta du Tonkin au Vietnam. Donc cette population très forte ne peut pas se nourrir sur une agriculture aussi sommaire de crues et de décrues. Et cette transformation a été engagée au XIXe siècle, à la suite des événements d'Égypte et du changement politique très important qui a eu lieu puisque l'Égypte a été gouvernée par un vice-roi, Mohamed Ali, qui a fait appel à partir de 1820 à des ingénieurs des écoles françaises et britanniques, mais surtout françaises, et aux Saint-Simoniens pour commencer un premier barrage de contrôle des eaux du Nil sur le delta et engager le pays sur une nouvelle agriculture qui ne dépendrait pas seulement de la crue et de la décrue, mais sur une maîtrise permanente des eaux pour pouvoir irriguer des cultures toute l'année. En particulier, donc, toujours le blé, qui devient une culture irriguée et plus une culture d'inondation, et puis surtout le coton, qui va devenir, pendant un siècle et demi, le moteur de tout le développement de l'Égypte.
Donc, premier barrage vers la fin du XIXe siècle.
Le premier barrage est un barrage de relèvement des eaux d'étiage. Monsieur de Marcilly soulignait qu'il n'y avait que 500 mètres cubes par seconde à l'étiage. Et très vite, Mohamed Ali va organiser l'irrigation pendant la période sèche, sur plus de 1 million d'hectares. Et donc, il n'y a pas assez d'eau pour cette agriculture irriguée. Il faut donc relever le plan d'eau et essayer de pousser l'eau dans des canaux surcreusés par les paysans, par la corvée, pour que cette agriculture nouvelle se mette en place. Si bien d'ailleurs que les fellahs d'Égypte sont passés d'un monde très organisé par l'alternance de la crue et de la décrue à un monde très structuré, administré, avec un travail permanent et une mise en culture permanente. Il n'y a rien à voir, effectivement, entre l'agriculture de 1820 et l'agriculture de 1860 à la veille de la construction du barrage d'Assouan, du haut barrage d'Assouan.
Monsieur de Marcilly, vous parliez tout à l'heure d'aménagements dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. En quoi consistaient ces aménagements ?
Ces aménagements étaient pour essayer de stocker de l'eau pendant la crue en amont des parcelles, de façon à pouvoir prolonger la période de disponibilité de l'eau sur les parcelles un tout petit peu plus en aval. Donc c'était des tout petits aménagements agricoles avec canaux et parcelles de stockage pour prolonger l'effet de la crue sur les parcelles. C'était pas des barrages, c'était vraiment l'eau monte toute seule pendant la crue, elle est maintenue dans des espèces de petits réservoirs, si vous voulez, et ensuite elle sert à l'irrigation ou la maintien d'humidité dans les eaux navales. C'est donc des creusements de canaux et des toutes petites aménagements. Alors que ce dont parle Thierry Ruff, qu'on appelle le haut barrage d'Assouan, qui a été construit en 1902, je crois.
Premier barrage d'Assouan date de 1902. C'est l'un des premiers barrages réservoirs, je crois, dans l'histoire de l'hydraulique.
Oui.
Barrage qui permettait...
Mondial ou de
l'hydraulique mondiale. Je pense qu'on n'a pas encore... ce premier barrage stockait jusqu'à 7 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui était 7 des 75 milliards de mètres cubes qui arrivent en Égypte chaque année. Et puis ce premier barrage a été surélevé plusieurs fois jusqu'à l'avènement du grand barrage d'Assouan, dont la fonction est de protéger l'Égypte des grandes crues destructrices, aussi de réguler le fleuve pour pouvoir pratiquer une agriculture permanente. Et une culture permanente, on va passer de une culture par an, comme il y avait dans l'ancien temps, à aujourd'hui trois cultures par an, donc pratiquement une mise en culture permanente, une photosynthèse permanente sur ces champs égyptiens. Effectivement, cet essor d'une agriculture qui était réputée extraordinaire dans l'ancien temps de la céréaliculture de décrue, mais qui est devenue aussi extraordinaire dans des temps actuels, avec une paysannerie qui est capable de produire jusqu'à 15 à 20 tonnes de matière sèche par an et par hectare, ce qui la situe dans les meilleures paysanneries du monde.
Vous avez l'air de trouver que le bilan du barrage d'Assouan est très positif. Il a malgré tout aussi été décrié. Est-ce qu'on pourrait faire l'état des lieux, je dirais, des arguments en faveur de ce barrage, des arguments contre, et pourquoi les arguments pour l'emportent?
Bon, il y a beaucoup de controverses autour du barrage d'Assouan. Il y en a depuis sa construction pratiquement. Il y en a une sur laquelle je voudrais insister. Le fait est que auparavant, les Égyptiens stockaient l'eau dans ces bassins de réception de la crue dont parlait Monsieur de Marcilly, qu'on appelle les Hod en arabe, et qui étaient en fait des structures où l'eau stagnait pendant 2 mois et où le fameux limon du Nil reposait et fournissait finalement aux paysans des terres humides, un lit de semences et des facilités, disons, pour la mise en culture. Or, l'apport du limon du Nil, justement, du point de vue de la fertilité, du point de vue du bilan de la fertilité, correspond à l'exportation de ces 1 à 2 tonnes de céréales dont je parlais. À partir du moment où on a intensifié, le limonage par la crue était tout à fait insuffisant par rapport à ces 20 tonnes dont je parle aujourd'hui. 10 fois plus de productivité. Donc, il a fallu complètement modifier à la fois la gestion de l'eau, mais aussi la gestion des fertilisants. Et l'Égypte est le premier pays aussi d'Afrique qui a couramment, au niveau de sa paysannerie, pratiqué l'engrais minéral et l'engrais organique à grande échelle. Dès 1900, pratiquement, on a des systèmes de production très complexes, très raisonnés et très étonnants par rapport à l'ensemble de l'agriculture mondiale. Le grand barrage d'Assouan, donc, évidemment, recueille le limon en amont, au Soudan. Maintenant, il y a une sédimentation très importante. Il va se remplir en 500 ans. Mais de toute façon, ce limon est en train de créer un nouveau delta intérieur pour les Soudanais, je dirais, et ne manque pas autant qu'on veut bien le dire, pour les agriculteurs égyptiens. En revanche, il y a d'autres conséquences négatives. Tout ce qui concerne la sédimentation dans la Méditerranée, l'évolution des côtes du delta, l'érosion des berges, etc., sont des véritables problèmes, compensés en partie par l'existence d'une pêcherie qui s'est créée dans le lac Nasser, en amont du lac, et qui crée un bassin d'activité nouveau pour les Égyptiens. Les critiques qui ont été faites sur la salinisation sont des critiques injustes, à mon sens. Ce sont les pratiques d'ensuite des services d'irrigation, d'extension extrêmement importante de l'irrigation sur certaines zones fragiles qui ont produit ces îlots de salinité et de problèmes environnementaux. Mais on ne peut pas imputer entièrement au barrage la responsabilité. C'est la manière dont les hommes utilisent l'eau en général qui compte également sur le long terme.
Par rapport à l'ancien barrage, le grand barrage d'Assouan a-t-il été responsable d'un changement d'échelle simplement ou vraiment d'un changement de nature pour l'agriculture?
En fait, cette question m'a toujours intéressé en allant dans les villages, et je pensais souvent que les villageois, les fellahs égyptiens, allaient dire que la transition, la rupture, c'était le barrage d'Assouan. Et en fait, plus personne ne se rappelle de la construction du barrage quand on est à la campagne, parce qu'en fait, le changement était déjà largement engagé par cette approche de Mohamed Ali au XIXe siècle et par ce basculement vers une gestion globale des eaux où c'est l'eau d'étiage qui est important et où la crue était rejetée en Méditerranée tant qu'on ne pouvait pas la contrôler. Le haut barrage d'Assouan donc n'a pas eu de grandes conséquences locales. Par contre, il a donné à l'État égyptien une responsabilité majeure et un pouvoir énorme dont on parlera après sans doute au niveau de l'action politique et l'action locale aussi.
Je voudrais ajouter un petit mot, si vous permettez, sur les effets environnementaux d'un aménagement quel qu'il soit, en particulier à ce moment. Un système naturel est toujours utilisé par les écosystèmes à son maximum. Autrement dit, quand vous avez un système naturel, quand il pleut de l'eau, il coule dans une rivière, elle est utilisée
par des plantes, par des animaux, par quelque chose. Donc toutes les crues du Nil qui arrivaient en Méditerranée avaient un effet écologique sur le système côtier qui est modifié par la construction, la retenue d'eau. L'aménagement des systèmes hydrauliques par l'homme consiste toujours à retirer aux écosystèmes naturels l'eau qu'ils utilisaient pour leur développement. Donc quand on fait quelque chose, on enlève de l'eau à quelqu'un, elle est toujours utilisée. La terre est faite de telle façon que quand il tombe une goutte d'eau quelque part, elle est utilisée par un écosystème. Donc si on l'aménage et on la fait utiliser par l'homme directement, elle est aux dépens de cet écosystème. Il se trouve qu'effectivement, sur la Méditerranée, il y a des effets que tu as cités, hein, sur la pêche, sur le fonctionnement des écosystèmes naturels qui a été modifié par le branchement. C'est inévitable. Mais si je reprends l'exemple du bassin de la Seine, autour de l'an 1000, quand on a défriché toute la forêt de l'époque, hein, on a complètement saccagé l'écosystème forestier, on a vu toute l'érosion des sols remplir la Seine de ces mines en fin, et on a complètement modifié le système. Chaque fois qu'on aménage, on modifie le système.
Donc ce qui peut paraître naturel aujourd'hui, l'était pas forcément au départ.
Voilà.
Mais on peut dire que lorsque Mohamed Ali commence à transformer les bassins de réception de la crue en zone d'irrigation pérenne, d'abord dans le delta, puis ensuite en remontant dans la vallée, le système est devenu extrêmement artificiel, encore plus qu'il n'était avant. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que la gestion de l'eau à partir d'Assouan, ou à partir de l'entrée du Nil en Égypte, est une gestion très complexe, interconnectée entre l'amont et l'aval, avec des territoires qui reçoivent des dotations en eau, mais qui aussi en redonnent. Et on a d'ailleurs une gestion extrêmement complexe de l'eau qui est utilisée plusieurs fois. D'Assouan jusqu'à la Méditerranée, on considère que 3 ou 4 fois, l'eau a été recyclée par ce système d'irrigation, de drainage et de reprise dans les mailles hydrauliques d'aval.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Thank you.
Nous retrouvons Guylain de Marcilly de l'Académie des sciences et Thierry Ruff, directeur de recherche à l'IRD, sur le sujet des ressources en eau en Égypte. Thierry Ruff, vous nous expliquiez à l'instant que l'eau, en fait, est réutilisée plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Voilà, alors à partir du haut barrage d'Assouan, on a une série de réseaux d'irrigation enchevêtrés qui d'ailleurs remontent aussi à l'organisation des digues et des bassins de décrue qui ont été donc transformés progressivement. On voit un effort public extrêmement important avec une organisation des ingénieurs, des services hydrauliques de l'État qui se constituent au XIXe siècle et qui vont donner de la rationalité et organiser pour chaque province un accès déterminé à l'eau, d'ailleurs qui est une sorte de droit d'eau global de la province. Et puis donc les paysans qui vont avoir aussi une tâche énorme dans cette transformation, parce que au lieu de finalement occuper des terrains en boue progressivement avec un partage complexe comme il y avait avant avec des enjeux fonciers, on va avoir maintenant des canaux, des rigoles et un accès à l'eau limité, mais qui va leur permettre de s'engager dans cette nouvelle agriculture. Et là, la chose très importante à comprendre, c'est que tous les ingénieurs ont réussi à amener l'eau d'étiage à proximité des champs, mais elle est toujours 2 ou 3 mètres sous le niveau des champs, par définition, parce que cet étalement des eaux d'étiage est très difficile à réaliser. La vallée du Nil a une pente très faible d'Assouan jusqu'à la Méditerranée. Et alors, ce sont les paysans qui vont transformer l'essai des ingénieurs en organisant l'exor, c'est-à-dire le relèvement des eaux, à travers un instrument qui était connu depuis le Moyen-Âge, mais qui était peu utilisé encore tant que les eaux du Nil n'étaient pas stabilisées, qui est la sakia. La sakia, c'est une noria, c'est une roue au départ en bois, en corde et en poterie, qui est tournée par une force motrice assez extraordinaire, qui est la traction animale. Parce qu'il n'y a pas de chute d'eau, c'est plat, etc. Donc il n'y a pas d'énergie. Donc la seule chose possible pour remonter l'eau et irriguer en plein été, quand il fait très très chaud, faire du coton, c'était cette sakia mue par les animaux. Donc les paysans vont s'approprier l'outil, vont s'organiser en commun, vont s'engager aussi dans la maîtrise de l'élevage qu'ils n'avaient pas avant. Dans le système de décrue, l'élevage était l'apanage des maîtres, des prêtres, des gens de pouvoir. À partir du XIXe siècle, les fellahs vont avoir l'outil, la force de traction, l'énergie et puis un renouvellement complet de leur organisation de travail.
De tels aménagements ont dû nécessiter une capacité d'organisation énorme. J'imagine que l'eau, enfin les ressources de l'Égypte ont été un enjeu de pouvoir important. Est-ce que ça a été le cas pour le barrage d'Assouan, par exemple ?
Alors, de par cette construction progressive, les pouvoirs sont évidemment extrêmement sollicités. Le pouvoir de l'État, bien sûr, qui est l'organisateur d'une distribution avec la vision globalisante qui amène finalement le barrage d'Assouan.
Est-ce que c'est l'État qui a toujours été à l'origine des aménagements ? Est-ce que c'est un mouvement qui va du haut vers la base ?
Alors, on peut le penser ainsi. Wittfogel pensait, dans une analyse du despotisme oriental, que effectivement c'était l'État qui était l'organisateur suprême de l'hydraulique et qui imposait aux citoyens une organisation politique dictatoriale. Le cas égyptien, quand même, montre que les choses sont plus nuancées. Il y a aussi eu des initiatives locales. L'aménagement ne s'est pas créé en un jour. Le réaménagement du Nil dont on parle, entre 1820 et 1960, c'est 140 années de soubresauts, d'essais, d'erreurs, etc., d'influence des personnes influentes de l'État, mais aussi de résistance des communautés paysannes qui ont été beaucoup plus efficace pour le passage à l'irrigation lors de la guerre de sécession des États-Unis, puisqu'on parlait du coton comme moteur du développement. L'Égypte est dans la mondialisation depuis 1811. Et lorsqu'il y a la guerre de sécession aux États-Unis, le marché mondial du coton se retourne vers l'Égypte et les prix vont décupler pour les paysans. Donc ils vont tous s'organiser, s'enrichir et se poser en une force sociale extrêmement puissante qui va par la suite d'ailleurs revendiquer l'indépendance égyptienne à travers les mouvements nassériens, etc. L'Égypte, c'est un paradoxe, c'est un pays avec une centralisation extrême, mais une gestion de l'eau locale d'une richesse infinie, puisque les gens s'organisent dans le village.
Oui, je crois quand même qu'il faut ajouter, mais je parle sous tout contrôle, que la culture du coton est une imposition qui vient du haut. La culture traditionnelle, c'était les céréales. Et c'est le pouvoir central qui a décidé que le coton, qui était une marchandise que l'on pouvait vendre sur les marchés internationaux, tu as parlé de mondialisation, était effectivement le moyen de remplir les caisses de l'Égypte. Donc ça, ça c'est devenu même obligatoire. On était obligé de cultiver du coton pour le vendre et pour faire rentrer des recettes financières dans l'Égypte. Et tu as parlé effectivement de la guerre de sécession aux États-Unis. Le prix du coton a énormément monté et cette affaire a très bien marché. Et ils se sont effectivement accumulé du capital à partir de ce moment-là.
Tout à fait. Alors, sur cette histoire, on peut dire que le coton est une culture obligatoire sous Mohamed Ali. Ensuite, à partir de la question d'Orient et de la révision du pouvoir de Mohamed Ali en 1840, qui a eu une grande influence en fait sur le cadre politique égyptien, le coton est redevenu une culture presque libre. Et puis, donc, la guerre de sécession relance la culture du coton, mais amène l'État égyptien et toute la société égyptienne à s'endetter de manière outrancière et ne pas pouvoir rembourser sa dette, ce qui a amené l'épisode colonial avec la prise de l'Égypte par les Britanniques et la gestion de la caisse de la dette, qui était une gestion pendant 40 ans où les ministres européens géraient les affaires du pays entre 1880 et 1914. Donc là, le coton est redevenu une culture obligatoire. Puis ensuite, c'est redevenu une culture libre. Et en fait, sous Nasser, avec le besoin impératif de financer le barrage d'Assouan, le coton est redevenu une culture obligatoire pour financer ce grand barrage, puisque les Russes l'ont réalisé sur la base d'un troc et pas d'un échange monétaire, le coton de qualité égyptien contre la construction du barrage.
Et aujourd'hui, quelle est la part du coton dans l'agriculture égyptienne ?
Alors maintenant, le coton est en train de s'effondrer parce que le système d'encadrement de l'agriculteur égyptien depuis 1980-85 a été arrêté. Les paysans sont libres de cultiver les cultures qu'ils souhaitent dans un mouvement de néolibéral, classique des pays du Sud. Et du coup, la paysannerie a diversifié énormément ses cultures. Et on peut dire que maintenant, c'est une espèce de couloir de maraîchage intensif avec 3 cultures par an, comme je disais maintenant, dont des cultures légumières, toutes les cultures de diversification. Sachant que maintenant, l'Égypte ne peut plus produire le blé nécessaire à sa population de 75 millions. Elle est obligée d'en importer à peu près un tiers.
Je voudrais quand même qu'on revienne à cette question des enjeux de pouvoir. Est-ce qu'ils ont été importants lors de la construction du barrage d'Assouan ?
Alors, Assouan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, il y avait une volonté farouche du régime nassérien de s'affranchir de tout risque hydrique pour le pays et d'étendre la culture irriguée dans le désert et de développer l'agriculture, d'intensifier l'agriculture pour faire face aux besoins alimentaires de base. Et il y a eu beaucoup de solutions techniques qui avaient été proposées, notamment par les Américains aux Égyptiens, c'est-à-dire ne pas créer un grand barrage en Égypte, mais plusieurs séries de barrages tout le long de Nil jusqu'en Éthiopie. Et les Égyptiens ont refusé pour avoir effectivement la maîtrise totale du fleuve et des ressources principales, avec un accord qui date de la colonisation et qui attribuait l'essentiel des ressources du Nil à l'Égypte. Il y a un autre élément sur lequel j'insiste, qui est moins connu. Je parlais de la question d'Orient tout à l'heure. Cette question d'Orient est apparue en 1839, lorsque Mohamed Ali avait réussi, par son intégration au marché mondial, par ses ressources du coton, à créer une armée moderne, à prendre le contrôle du Soudan, de la péninsule arabique, de la Jordanie, de la Palestine, de la Syrie. Et les armées égyptiennes étaient à 100 km de Constantinople. Donc les puissances occidentales, la France, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie, se sont pour la première fois entendues pour bloquer ce processus d'expansion d'un empire égyptien qui avait été appuyé dans un premier temps et qui mettait en péril le pouvoir ottoman et finalement qui devenait un danger pour l'expansion occidentale. Donc les Égyptiens se sont battus pour conserver ce pouvoir. Malheureusement, et on retrouve le Nil et Assouan, 1839 et 1840, ce sont deux énormes crues qui dévastent tout le pays, qui désorganisent toute l'organisation hydraulique, d'irrigation, etc. et qui met l'économie du pays à genoux. Donc les Égyptiens ont dû céder aux puissances occidentales. Et je pense que très honnêtement, peut-être consciemment, les Égyptiens voulaient absolument, à travers le haut barrage d'Assouan, affirmer une souveraineté nationale éminente.
Et le barrage a-t-il permis d'éviter d'autres crues du type de 1839 ou 1840 ?
Oui, il y a eu en particulier 2 années de crues sont passés inaperçus dans la partie aval du Nil, hein, après le barrage, parce que le Nil a été stoppé et les eaux ont été stockées dans le barrage d'Assouan et ça a permis de complètement d'effacer ce qui aurait pu être une catastrophe aussi grande de 1839, auquel tu disais que 800 villages avaient été...
800 villages ont été détruits en 1840.
C'est quand même énorme.
C'est-à-dire le quart des villages de l'époque.
Et avec des milliers de morts, je suppose.
Des milliers de morts, bien sûr.
Des milliers de morts. Donc, effectivement, je crois que les Égyptiens aujourd'hui sont extrêmement satisfaits de l'existence du barrage qui les a protégés contre quelque chose d'équivalent qui serait produit entre 1960 et maintenant. Hein. Donc il y a eu ça. Et il y a aussi eu le fait que des années de sécheresse dans lesquelles on aurait manqué d'eau en Égypte ont été complètement effacées par le stockage qui a été réalisé grâce au barrage.
Accessoirement, d'ailleurs, le barrage fournit de l'électricité à l'Égypte et puis est aussi à l'origine de l'industrialisation du pays pour certaines industries comme celle des engrais qui sont très nécessaires à cette agriculture.
Aujourd'hui, qui gère l'eau en Égypte et comment est structurée l'agriculture? Est-ce que c'est toujours autour d'un noyau familial ou est-ce que les gens se sont regroupés, sachant que l'union fait la force?
Alors, pour répondre rapidement à une question qui mérite de grands développements, parce que finalement, donc, on a une administration qui s'est structurée autour de la transformation au XIXe siècle, qui est devenue une administration extrêmement puissante. Le ministre des Travaux publics et des Ressources en eau est un personnage très important de l'État, M. Abou Zaïd. Il est aussi important d'ailleurs que le ministre de l'Agriculture. Et ces deux ministres, finalement, sont à la tête de deux administrations qui contrôlent l'ensemble du dispositif, à la fois pour distribuer l'eau, mais aussi pour valoriser cette eau sous la forme de l'agriculture dont on parlait. Alors, l'administration, par exemple, de l'irrigation, emploie 88 000 personnes, cadres, et c'est quelque chose de considérable. Il y a, du point de vue de l'agriculture aussi, un encadrement villageois avec des coopératives qui ont été instituées sous Nasser, qui employaient des dizaines et des dizaines de milliers de cadres. Alors, ces administrations continuent à gérer en partie le système, aussi d'ailleurs avec une certaine compétition et rivalité, notamment quand on parle d'économie d'eau, est-ce qu'on l'économise par l'agriculture ou par les dispositifs hydrauliques? Les deux ministères sont très très rivaux sur ce sujet. Et puis, sur le terrain, on voit des enjeux de pouvoir, d'influence entre les services agricoles et les services hydrauliques. Ça est d'ailleurs un problème général mondial. C'est pas, même en France, on va trouver ce genre de rivalité de services dans les directions départementales de l'agriculture entre les gens qui s'occupent du développement agricole et ceux qui s'occupent de la gestion ou de la loi sur l'eau. Du côté égyptien, on a donc ce fantastique appareil qui fonctionne, hein, qui assure à 7-8 millions de familles paysannes de l'eau tous les jours. Donc le système fonctionne. Malheureusement pour le pays, il s'est ouvert, malheureusement ou heureusement, enfin en tout cas les choses sont comme ça. On a eu une période libérale, une ouverture, et la SAKIA, donc, qui était l'instrument de contrôle, l'interface entre l'État et la paysannerie, est devenue un outil obsolète parce que les gens ont pu revenir de la migration internationale avec des pompes diesel mobiles, des petites pompes. Il y en a aujourd'hui des millions en Égypte. Et il se crée ce que les services hydrauliques considèrent comme une anarchie locale, c'est-à-dire que dans chaque village, maintenant, presque chaque paysan vient installer sa pompe le long des biefs des canaux et remet en cause tout le dispositif ancien d'arbitrage avec des biefs qui se vident trop vite, le service de l'État qui est obligé de faire pousser de l'eau plus dans tel ou tel canal, et puis bon, une certaine corruption ou en tout cas des excès de pouvoir ou des interventions des puissants pour pouvoir disposer de l'eau plus vite que les autres. Donc il y a une véritable désorganisation et depuis 20 ans, la recherche égyptienne, la recherche française aussi ou américaine, on essaye des différentes solutions et qui passent par une organisation intermédiaire, par des districts d'irrigation où les paysans seraient représentés à travers des associations et où l'État trouverait un accord minimal pour que la répartition de l'eau soit juste et équitable.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio,
sur Internet,
Canal Académie.
Nous retrouvons Guylain de Marcilly de l'Académie des sciences et Thierry Ruff de l'IRD sur la question des ressources en eau en Égypte. Alors, on a vu que l'organisation de la gestion des ressources en eau était une énorme machine. On a vu aussi que l'introduction de pompes avait passablement modifié la façon dont les paysans s'organisent. Est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce qu'on a quand même une forme d'organisation collective, même si elle est renouvelée par rapport à ce qui a pu se pratiquer avant ?
Alors, la présentation un peu officielle du ministère des Travaux publics et des ressources en eau, du ministère de l'Irrigation si vous voulez, parle un peu d'une individualisation complète, d'une anarchie, comme je disais ça tout à l'heure. En réalité, les travaux de recherche montrent que l'organisation des cercles de sakya n'a pas complètement disparu et le pompage n'est pas si compétitif entre paysans. C'est-à-dire qu'on a quand même des minimums de relations de bon voisinage. On ne va pas trop se voler l'eau, du moins dans le niveau extrêmement local, dans la maille hydraulique de base qui fait 15-20 hectares. Pour pouvoir réorganiser les choses et rationaliser un peu la distribution de l'eau, donc l'État envisage ces structures intermédiaires qui sont concevables à l'échelle d'un village ou de plusieurs villages. Et là, on a d'autres enjeux de pouvoir, parce que depuis 150 ans ou 200 ans que cette transformation hydro-agricole s'est faite, la structure villageoise a été très très peu présente. Les hommes d'âge, les maires, sont des relais du pouvoir politique, mais n'intervenaient pas dans l'hydraulique. Or, on est en train de créer une coordination hydraulique qui suppose des nouvelles institutions, des associations, des fédérations d'associations, et donc un pouvoir nouveau au sein du système villageois. Et vous pensez bien que celui qui est chargé de la distribution de l'eau pour des milliers ou des dizaines de milliers de paysans a une responsabilité de solidarité, de justice, d'efficacité, qui n'est pas forcément celle d'un maire qui a une étiquette politique et qui travaille pour un autre registre, ça se comprend assez bien. Donc il y a un certain nombre de difficultés de matérialiser cette nouvelle organisation et de faire que les institutions travaillent ensemble. C'est aussi un phénomène assez général. En France, les associations syndicales d'irrigation ont un besoin impérieux de s'associer aux municipalités et aux directions départementales de l'agriculture pour fonctionner convenablement. Mais il y a beaucoup aussi de cas où les acteurs ne sont pas cohérents et rentrent dans des conflits politiques ou autres. Alors, bon, je répète, ce qui est étonnant en Égypte, c'est que finalement ça fonctionne. 75 millions d'habitants ont tous les jours sur le marché des produits frais, accessibles à un coût relativement, enfin correspondant à l'économie nationale, qui est une économie où la pauvreté est très importante. Cela dit, il ne faut pas cacher d'autres dimensions qui sont des dimensions qui nous ramènent à l'environnement hydrique. Il y a une pollution des eaux qui est manifestement absolument pas contrôlée, qui est liée à l'industrialisation, l'urbanisation, l'usage des engrais aussi dans l'agriculture. Donc les eaux sont de plus en plus dégradées et les problèmes de santé publique sont associés à ça, à tout niveau, dans le cadre de l'alimentation, des maladies dont le vecteur est l'eau. Et une des maladies les plus importantes d'Égypte, c'est la bilharziose, hein, qui touche 80% de la population rurale et plus de la moitié de la population globale. Donc on a quand même un essor agricole et un pays qui a évolué, qui s'est transformé, qui s'est modernisé, mais avec toujours une situation catastrophique des populations les plus vulnérables, pauvres, de la vallée, du delta et des quartiers périphériques des villes.
Des eaux polluées avec des problèmes sanitaires, une agriculture qui malgré tout ne suffit pas à couvrir les besoins alimentaires de toute la population. Est-ce que ces enjeux sont caractéristiques d'autres pays ou est-ce qu'ils sont propres à l'Égypte, Guilain de Marsilly ?
Hélas, c'est sort de la planète. La démographie actuellement continue à croître. Nous sommes 70 millions d'habitants sur Terre de plus chaque année. Et au rythme où nous sommes actuellement, en 2050, la Terre devrait supporter à peu près 9 milliards de personnes, alors que nous sommes 6,2 milliards aujourd'hui. Donc partout, en particulier dans les pays en voie de développement, donc les pays qui sont les moins riches, eh bien, l'augmentation de la démographie pose les mêmes problèmes que ceux qu'on vient de voir en Égypte, c'est-à-dire comment nourrir cette population et comment régler les problèmes, je dirais, des grandes villes dans lesquelles la majorité de la population se retrouve, où trouver la nourriture, comment produire cette nourriture, comment alimenter en eau. C'est des problèmes extrêmement préoccupants dans l'ensemble du monde.
Est-ce que la forte concentration de la population pose des problèmes particuliers en termes de gestion des ressources en eau ? Je pense notamment à la pollution.
Écoutez, l'essentiel du problème de l'eau dans le monde, dans le XXIe siècle, c'est le problème de la nourriture.
il faut produire de la nourriture. Et on a vu qu'un pays comme l'Égypte, qui est quand même extrêmement riche en eau, compte tenu des eaux apportées par le Nil, n'arrivera pas à nourrir sa population. Globalement, nous nous dirigeons vers un monde dans lequel toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient seront incapables de se nourrir en fonction de la population qu'ils auront. Ils devront donc importer de la nourriture. Et plus grave, toute l'Asie sera incapable de se nourrir. Il y aura environ, en Asie, la population asiatique augmente beaucoup, enfin, moins vite qu'avant, mais elle augmente encore. Vous savez qu'aujourd'hui, 3,6 milliards d'hommes vivent en Asie. C'est là où se trouve l'essentiel de la population humaine, et il augmente encore, en particulier en Inde. Et ces pays-là, en 2050, seront à un facteur 4 en dessous des capacités de production sur tous les sols utilisables et cultivables du monde. Donc ça veut dire qu'on se dirige vers un problème dans lequel les pays ou les continents les moins peuplés, c'est essentiellement l'Amérique du Sud et un peu l'Afrique, devront produire la nourriture pour essayer de subvenir aux besoins en nourriture des pays qui n'arrivent plus à s'alimenter. Donc c'est un problème énorme qui va conduire à des aménagements du style d'Assouan beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, mais surtout à une déforestation des sols naturels pour pouvoir augmenter les surfaces qui s'alimentent en eau par la pluie et non pas par l'irrigation, donc des surfaces normalement en agriculture pluviale pour arriver à fournir la population en nourriture. Alors maintenant, vous posez le problème de la pollution. Je dirais que la pollution agricole est importante. Effectivement, dans les agglomérations urbaines, la pollution urbaine est celle qui met en menace, qui menace la santé des gens à cause de l'absence d'assainissement. Il y a sur Terre environ 2,5 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'assainissement. 1,2 milliard qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et les problèmes de maladies ou de santé publique liés à l'eau, c'est des problèmes de grands centres urbains dans lesquels il n'y a ni eau ni assainissement.
Et pourrait-on envisager de dessaler l'eau de mer pour couvrir les besoins de l'agriculture ?
Alors le dessalement de l'eau de mer, on sait faire. Il y a des techniques, en particulier par osmose inverse, qui permettent de produire de l'eau dessalée à partir de l'eau de mer ou à partir d'eau saumâtre qu'on peut trouver dans des nappes, à des coûts qui avoisinent environ 0,7 euros par mètre cube. Pour vous donner l'ordre de grandeur, en France, dans les villes, nous payons l'eau du robinet à peu près entre 1 et 3 euros par mètre cube. Donc, pour produire de l'eau, pour la mettre à la disposition des citadins, c'est possible. En revanche, il est totalement exclu que l'on puisse irriguer des cultures céréalières, par exemple, pour produire de la nourriture avec de l'eau dessalée. Les coûts sont 10 à 100 fois trop élevés. C'est pas envisageable. Donc, ce ne sera pas une solution pour le problème de la nourriture. Ça peut être une solution, et ça l'est déjà dans certains points, pour la fourniture de l'eau domestique.
Oui, alors, en Égypte, on a une situation où on pourrait penser que la mer Rouge ou la Méditerranée puissent être des ressources utiles, au moins pour l'alimentation des villes côtières, comme Alexandrie ou Suez. Il y a déjà des petits projets de dessalement de l'eau de mer dans le Sinaï, surtout pour les stations touristiques, en fait, parce que là, il n'y a pas de ressources en eau, donc c'est la seule possibilité. Et il y a une économie qui soutient cette technologie. En dehors du coût énergétique pour l'agriculture, du dessalement, il y a un autre élément qui est très important, c'est que l'eau est très difficilement transportable de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un surpompage pour ramener aux zones agricoles et qui rend pratiquement cette technique impossible à généraliser dans un avenir proche ou même à moyen terme. Par contre, les problèmes d'accès à l'eau domestique aussi, c'est un paradoxe. L'Égypte a quand même pas mal d'eau, comme on l'a dit, mais la population urbaine et rurale a des difficultés d'accès à l'eau potable et à l'assainissement du même ordre qu'à l'échelle mondiale. Beaucoup de villages ne sont pas équipés du tout et donc les gens dépendent des eaux qu'ils reçoivent à travers tout ce dispositif d'irrigation finalement et qui, en fin de parcours, est vraiment une eau non consommable, quoi.
Et quels sont les projets de l'Égypte pour faire face à ce déficit d'agriculture vivrière ?
Alors, le problème égyptien, c'est que à l'heure actuelle, c'est de réduire les importations de blé. Le slogan de la sécurité alimentaire des années 60 et 70 n'est plus atteignable. Maintenant, dans le pays, c'était concevable à 40 millions d'habitants. À 75, ça l'est pratiquement plus. Mais le problème n'est pas seulement quantitatif sur les bases alimentaires. Sur les 75 millions d'habitants, il y en a 40 qui sont directement inscrits dans l'activité agricole. Et que faire de cette population si son système ne fonctionne plus, si l'eau ne lui parvient plus, ou si les conditions économiques changent et que les gens seraient amenés à un exode rural massif? Ça concerne donc 20 à 30 millions d'habitants qui n'ont aucune chance en arrivant en ville de trouver du travail. Il y a vraiment un problème social, un problème qui prend des dimensions internationales, parce que les Égyptiens ont très peu migré vers l'Europe. Ils ont eu une grande période de migration vers les pays du Golfe pour servir de travailleurs. C'est aussi en train de se restreindre, cette épopée de la migration réussie des Égyptiens dans le Golfe, suite d'ailleurs aux événements que tout le monde connaît. Donc la situation est vraiment difficile du point de vue économique pour le gouvernement et aussi à l'échelle locale pour les villageois.
Alors l'État égyptien a-t-il mis en place justement des projets pour éviter de trop bouleverser l'organisation sociale du pays? Comment faire pour que ces 40 millions de personnes qui vivent de l'agriculture continuent à en vivre?
Je crois avoir dit que finalement l'État égyptien, enfin, les Égyptiens vivent de compromis permanents entre des choses très contradictoires, et les pouvoirs politiques égyptiens n'ont pas la possibilité de se passer des fellahs et de leurs organisations, de leur poids politique dans le monde rural, etc. Ce qu'on propose aux Égyptiens, c'est des nouveaux bassins d'activité avec le fameux projet d'extension de l'irrigation sur le sud, le projet dit Touchka, ou le canal de la paix qui dérive des eaux du Nil vers la bande de Gaza et qui est censé apporter des ressources à des personnes qui manquent cruellement d'eau aussi dans des conditions très difficiles. Ces projets sont des projets très ambitieux, très coûteux et qui sont axés non pas sur la production de bases alimentaires supplémentaires ou pour la sécurisation des bases alimentaires égyptiennes, mais pour une intégration plus forte sur le marché mondial avec des exportations de primeurs sur l'Europe. Hein. Le projet Touchka, c'est une nouvelle vallée hein, à partir de la plus grande station de pompage ou la deuxième plus grande station de pompage du monde. 500 mètres cubes par seconde, c'est le débit de la Seine dont on parlait au début, est pompé dans le lac Nasser pour être déversé dans le désert libyque au profit de nouveaux investisseurs agricoles, des investisseurs qui sont sollicités en Occident ou dans le monde arabe pour capter des pétrodollars, avec des entités agro-industrielles étonnamment organisées. Ce n'est pas du tout la culture égyptienne, mais c'est un projet qu'on appelle parfois pharaonique. En tout cas, c'est le projet du président Moubarak, et qui pose d'énormes problèmes de pérennité à long terme. Est-ce que l'environnement va pouvoir supporter ça, l'environnement désertique? Est-ce que ces entreprises vont vraiment venir avec tous les risques économiques et financiers? Et surtout, cette population égyptienne si attachée aux rives du Nil, est-ce qu'elle va accepter de partir par millions dans des projets nouveaux, dans le désert, alors que la vie y est très difficile?
Finalement, l'apport des investisseurs étrangers a-t-il permis de financer ce projet? Est-ce que c'était la condition pour le mener à bien?
Pour l'instant, on est encore dans une phase préliminaire. Les infrastructures sont faites. Des compagnies françaises, d'ailleurs, ont participé à l'investissement. Mais l'application, en fait, les investisseurs ne se bousculent pas pour réaliser ces fameuses grandes entités de 1000 ou 2000 hectares, même si l'eau est quasiment gratuite. C'est un élément qu'on n'a pas abordé, mais toute cette histoire souligne que la culture égyptienne de l'eau est une culture où le pouvoir politique délivre de l'eau à la population gratuitement. Par cette transition de la culture de cru à la culture d'irrigation puis à la distribution de l'eau, tout a reposé sur un service que l'État rend à sa population, la population rendant à l'État largement à travers le coton dans la période de coton obligatoire ou à travers toutes les activités économiques. Et peut-être là aussi il y a un enjeu politique et un enjeu international parce que c'est un des pays qui résiste le plus au niveau des autorités comme au niveau local à une valorisation économique de l'eau au sens d'une tarification que les gens paieraient pour un volume délivré soit en ville, soit pour l'agriculture. Donc beaucoup de contradictions et beaucoup de difficultés pour pouvoir s'en sortir avec donc la Banque mondiale, le FMI, qui pousse vers une marchandisation, vers une valorisation, et puis une histoire qui est très différente en tout cas.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Thank you.
Nous retrouvons Guylain de Marcilly de l'Académie des sciences et Thierry Ruff de l'IRD sur la question des ressources en eau en Égypte. Thierry Ruff, à la fin de vos explications, vous avez mentionné la question internationale. Monsieur de Marcilly, au début de l'émission, vous aviez expliqué que le Nil, ce n'est pas seulement l'Égypte. Alors voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer la question du Nil à la seule échelle de l'Égypte, ou est-ce qu'il faut prendre en compte les pays riverains ?
On pose souvent la question, est-ce qu'il va y avoir une guerre de l'eau ? C'est une question qui revient souvent dans les débats. Et tout le monde porte ses regards en général sur le Moyen-Orient, la Turquie qui gère les fleuves comme le Tigre et l'Euphrate, et bon, tous les pays qui en ont besoin, la Syrie, l'Irak, l'Israël, le Liban, etc. Et on pense que si guerre de l'eau il y a un jour, elle viendrait de là. Et un autre pays, ou deux autres pays qui sont au bord d'une guerre de l'eau, c'est le Pakistan et l'Inde. Ils gèrent des fleuves communs, et de façon assez surprenante, ils s'entendent. Hein. Au lieu de créer une guerre de l'eau, ces deux pays sont presque en guerre pour des raisons militaires de pouvoir à cause du Cachemire. Eh bien, finalement, même pendant les périodes les plus intenses, les deux pays s'assoient autour de la table et gèrent leur problème de l'eau de façon à gérer l'eau. Alors, il reste l'Égypte et les pays voisins. J'ai dit que l'essentiel de l'eau vient d'Éthiopie. L'Éthiopie amène 85% de l'eau par le Nil Blanc jusqu'au barrage d'Assouan. Et elle utilise 0,3% de cette eau. Bon, donc problème. Si guerre de l'eau, c'est peut-être là qu'elle commencera, malheureusement. Le problème est que l'Éthiopie voit sa population augmenter aussi. Je n'ai pas le chiffre exact de sa population aujourd'hui, mais elle doit avoisiner celle de l'Égypte. Elle augmente aussi très vite. L'Éthiopie possède des terres cultivables, mais il manque de l'eau. Et elle possède aussi des sites tout à fait favorables à la construction de barrages pour retenir l'eau du Nil et irriguer les fameuses terres dont les Éthiopiens ont le plus grand besoin. L'Éthiopie est le plus pauvre pays de la planète, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc vraiment, les gens, si les Égyptiens sont pauvres, les Éthiopiens sont encore 1000 fois plus pauvres. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les Éthiopiens demandent leur part d'eau du Nil. Et les Égyptiens sont d'une clarté totale. Ils disent, si vous construisez le moindre barrage sur le Nil, c'est une déclaration de guerre, nous envoyons nos avions et nous les détruisons. Donc il y a une déclaration de guerre latente qui est de dire nous ne voulons pas un aménagement et une utilisation de l'eau du Nil par l'Éthiopie.
Mais pourquoi refusent-ils cet aménagement ?
Parce qu'ils en ont besoin de l'eau. Hein. Ils ont besoin de l'eau, on a expliqué que toute l'eau du Nil est utilisée pour l'irrigation, pour éventuellement de nouveaux aménagements. Et dans ce que tu as dit, Thierry, sur le nouvel aménagement de pomper l'eau du barrage pour aller irriguer des périmètres dans le désert, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un souhait de l'Égypte, je dirais, d'avoir un fait accompli, c'est-à-dire d'utiliser encore plus d'eau du Nil pour éviter que d'autres viennent à dire « nous aussi on a besoin des eaux du Nil ».
Oui, on peut interpréter ce qui se passe en ce moment comme une pression supplémentaire pour légitimer en fait les usages établis. On sait toujours que dans l'irrigation, les fondateurs des premiers réseaux sont toujours prioritaires dans l'accès à l'eau. Toutes les sociétés reconnaissent aux anciens systèmes cette prérogative, sauf aux grandes réformes. Donc les Égyptiens se sont non seulement ont été plus loin que Bonaparte qui disait qu'il fallait pas qu'une goutte d'eau aille à la mer, ce qui a été réalisé au cours du 19e et du 20e siècle avec le barrage d'Assouan à la fin de ce processus. Mais maintenant, les Égyptiens vont vers un accroissement des superficies et des lieux d'usage qui est déraisonnable par rapport à la future négociation sur la répartition des eaux du Nil. Ils se posent évidemment comme le pays qui dépend à 120% maintenant des ressources et qui ne peut plus céder la moindre goutte d'eau. Il rentre dans une négociation avec un pouvoir très important, un pouvoir historique, un pouvoir régional. C'est un grand pays arabe, c'est un grand pays influent d'Afrique. Si bien que le Soudan, qui est aussi demandeur d'un rééquilibrage des ressources, des accès aux ressources, et puis l'Éthiopie et les autres petits pays, ont accès à des marges dans la négociation. C'est-à-dire si on garantit que certains surplus, certaines années peuvent être stockés sur du long terme, on pourrait les réattribuer en amont. Mais l'aval restera avec son exigence minimale. Je vois mal les Égyptiens céder. Alors plus qu'une guerre de l'eau, enfin il y a quand même une structure de concertation hein, sur l'ensemble du bassin qui est souvent d'ailleurs considérée comme une structure exemplaire de ce qui peut se faire pour éviter que les litiges dégénèrent. Il y a une commission donc d'études des eaux du Nil, mais c'est plutôt une bataille d'information qu'on constate Et là aussi, c'est quelque chose d'assez général, je pense, en hydrologie, en affaire de l'eau. C'est que l'information sur les ressources reste un secret d'État et mal partagée. Il y a différents partenaires qui ont différentes sources d'informations. Et c'est plutôt une guerre entre ces informations qui est en train de se passer avec l'usage des satellites, avec l'usage de certains outils scientifiques pour légitimer telle ou telle position politique. Évidemment, dans chaque pays, il y aura un regard différent.
Oui, on peut espérer qu'effectivement, on n'aura jamais cet extrême recours qui est la guerre. Hein. On peut espérer que justement la concertation soit le moyen d'arriver à mettre d'accord ou à partager de façon plus ou moins équitable la ressource unique hein, qu'on ne peut pas augmenter entre les trois pays. Le Soudan en possède quand même déjà un peu. Hein. Le Soudan a 18,5 km3 par an d'eau du Nil, dans l'accord qui date du siècle dernier, alors que l'Égypte en a 55. Hein. Donc c'est effectivement l'Éthiopie qui est le pays le plus, je dirais, rationné dans l'utilisation des eaux du Nil, et c'est lui qui va être le plus demandeur. Alors effectivement, c'est par la concertation. J'ai donné l'exemple de l'Inde et du Pakistan. La concertation permet, et on peut espérer qu'elle permettra de répartir peut-être de façon un petit peu plus équitable la ressource entre tous les pays.
Il s'agirait donc de renégocier un accord qui date de la fin du siècle dernier.
L'accord qui fait référence, c'est dans les années 50, 59 si ma mémoire est bonne.
Est-ce que la concertation est réelle aujourd'hui ou est-ce qu'on a juste mis en place la structure pour la lancer ?
Non, il y a une véritable structure de concertation, il y a une production de données, il y a une bagarre de chiffres, mais il y a une position intransigeante de l'Égypte et je pense que tel que se dessine le pouvoir politique actuel en Égypte, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait une cession de droits d'eau existants. Ces 55 milliards, l'Égypte les revendiquera tout le temps. Donc la discussion, c'est simplement si on arrive à démontrer aux Égyptiens qu'on peut, à la marge, gagner quelques milliards de mètres cubes, ils accepteront cette cession.
Mais ils n'accepteront pas de se priver d'une
Vous savez, les Égyptiens aussi, je parlais de 1839 et 40 comme référence importante sur le plan politique, économique, historique. Il y a une autre année qui est très importante, c'est 1914. Alors c'est des années qui pour les Européens, signifient autre chose, mais 1914, c'est l'année la plus sèche en Afrique. Hein. Il est arrivé en Égypte que 40 milliards de mètres cubes au lieu des 100 qui arrivaient. Il y a eu une diminution hein, générale, on n'en a pas parlé, mais sur toute cette période, on est passé de 120 milliards annuels à peu près 80 maintenant, hein, donc avec des fluctuations très importantes. Mais il y a moins de ressources en eau qu'il y a 150 ans. En 1914, avec 40 milliards, l'Égypte avait été dans une situation catastrophique. Le jour, justement, ils avaient fini de rembourser la dette aux puissances européennes, c'était le jour où on cultivait plus rien en irrigation, pratiquement, parce que ces 40 milliards étaient retenus par le fleuve en amont. Hein. Quand on dit 40 milliards, on enlève les 20 milliards des Soudanais et tout ce qui se perd, il restait pratiquement plus rien. Donc les Égyptiens ne veulent absolument pas retrouver une disette et ni une inondation catastrophique. Donc ils vont peser de toutes leurs forces pour garantir ces 55 milliards.
Alors une baisse de 120 milliards à 80 milliards, est-ce que ça risque de continuer sur cette tendance-là ?
Alors c'est là où l'information aussi devient un enjeu très important parce que dans les négociations, les Égyptiens ont tendance à dire que la ressource est en diminution alors que les gens d'amont disent qu'elle est stable, voire en augmentation. Donc justement, tout le système d'information n'est pas garanti pour que toute l'information n'est pas sur la table en fait pour pouvoir réellement dire si le changement climatique général pèse aussi sur le Nil actuellement. Mais dans l'ensemble, on a l'impression d'un décalage entre le changement de ressources en eau est très important d'après les données qu'on a en Égypte hein, au 19e siècle jusqu'en 1950 et il y aurait presque une stabilité, j'ai un peu les courbes là devant moi, une stabilité depuis 1950. Donc
c'est étonnant.
Difficile de c'est pas étonnant parce que en fait le Nil, comme on l'a dit, c'est l'Éthiopie, c'est le haut bassin, c'est des pluies très locales de mousson très puissantes qui tout d'un coup poussent de l'eau sur un 6000 km de cours d'eau. Et donc on a un phénomène qui, par sa localisation, échappe peut-être à quelque chose qui serait beaucoup plus continental finalement.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Guilain de Marcilly, Thierry Ruff, merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'être venu pour échanger sur ce sujet des ressources en eau en Égypte. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Merci.